Très bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutube. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un air de liberté retrouvé en France, des cafés en terrasse, nous entrons dans la phase 2 du déconfinement, l'occasion de repenser le partage de l'espace public en ville, vous l'entendrez.
Réouverture aussi des musées, monuments nationaux partout en France, le secteur culturel s'inquiète. Toujours des conséquences des mesures sanitaires pour les chiffres de fréquentation dans ce contexte. Le pass culture, promesse d'Emmanuel Macron, pourrait prendre un nouvel envol.
Si la situation sanitaire s'améliore en France, les professionnels de santé refusent qu'on les oublie. D'où ces mardis de la colère organisés notamment par la CGT avec des manifestations dans tout le pays.
Et puis, à la une à l'étranger, Donald Trump menace de déployer l'armée pour rétablir l'ordre aux États-Unis.
Un ton martial qui ne devrait pas entamer la motivation des manifestants une semaine après la mort de George Floyd, cet homme noir de 46 ans interpellé par un policier blanc et mort asphyxié. C'est la conclusion d'une nouvelle autopsie. L'application pour mobile Stop Covid est lancée aujourd'hui par le gouvernement. Mérite-t-elle des polémiques enflammées à son sujet? C'est la question que posera Frédéric Seyss dans son billet politique après ce journal.
Bienvenue au Capone.
Merci.
Vous êtes combien?
On est trois.
Alors le masque est obligatoire par contre.
Comme ce patron de bar Gilles Poulain à Laval qui a accueilli des clients des minuits hier soir, propos recueillis par Charlotte Coutard de France Bleu Mayenne, les cafés et restaurants ont donc le droit de rouvrir aujourd'hui, mais avec 10 personnes maximum par table et 1 mètre minimum entre chaque groupe. Dans les zones oranges, seules les terrasses peuvent rouvrir, en Île-de-France par exemple. Un enjeu économique fort pour le secteur qui estime à 10 milliards d'euros le montant des pertes d'exploitation. Cette réouverture est également un besoin social, surtout pour celles et ceux qui ont passé des mois confinés seuls en appartement. Cette phase 2 du déconfinement est aussi l'occasion de repenser la ville et le partage de l'espace public, Catherine Pétillon.
Ici, des rues piétonnisées, là, le paiement des droits de terrasse gelé jusqu'en septembre, ou encore des espaces aménagés pour faciliter le passage et la vente à emporter. Pour combiner réouverture des bars ou restaurants et distance physique, les villes ont imaginé des aménagements de l'espace public. Ces changements techniques impliquent en fait d'autres manières de partager la ville. Benjamin Pradel est sociologue à Kaléidoscope et spécialiste du temps des villes.
C'est un enjeu de désaturation de l'espace public par une forme de réorganisation ou une manière de repenser le partage de l'espace public entre les différentes fonctions et usages qu'il supporte dans la ville. On a une équation entre, d'un côté, beaucoup de demandes de droits sur l'espace public, que ce soit le droit du vélo, le droit du marcheur, le droit du commerçant, le droit du riverain, le droit de la voiture. Beaucoup de demandes d'usage d'un côté, et de l'autre côté, un espace public qui n'est pas extensible à l'infini. Donc, il y a un choix politique. Quels usages on autorise, quels usages on développe et quels usages on réduit. Donc, c'est un choix politique.
Ces aménagements des rues, pour les restaurants comme pour les vélos, en somme, cette ville au temps de la Covid va-t-elle disparaître après la crise ou perdurer ? Au-delà des installations même, verra-t-on aussi se développer l'approche de la ville défendue depuis des années par un certain nombre de chercheurs, collectivités locales ou citoyens, celle d'une ville malléable, adaptable, temporaire. En tout cas, à quelques semaines du second tour des municipales, voilà qui pourrait bien devenir un enjeu du scrutin dans certaines villes, à commencer par les plus grandes.
Et dès aujourd'hui encore, l'interdiction de se déplacer à plus de 100 km de chez soi est levée sur l'ensemble du territoire. Il est ainsi permis de prendre l'avion ou le train à condition de porter un masque. Masque de rigueur également dans les musées et monuments nationaux qui peuvent rouvrir leurs portes dès aujourd'hui partout en France. Des masques encore dans les théâtres en zone verte, mais en zone orange, les salles de spectacle devront attendre le 22 juin prochain pour pouvoir rouvrir. Le secteur culturel dans son ensemble s'inquiète toujours des conséquences des mesures sanitaires pour les chiffres de fréquentation. Et dans ce contexte, le pass culture promis par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle, ce pass culture qui a connu des débuts plutôt chaotiques, pourrait reprendre un nouvel envol, Anne Fauquemberg.
Il y a d'abord eu le temps d'incubation de cette technologie semi-web, semi-applicative qui permet de référencer, géolocaliser et réserver des offres culturelles physiques et numériques. Il a fallu ensuite trouver un modèle économique qui a pris la forme d'une société par action simplifiée financée par l'État et la Caisse des dépôts. Mais un scandale de rémunération avait entaché le lancement de l'expérimentation à l'été dernier. Quelques mois plus tard, on retrouve le pass culture avec 65 000 utilisateurs dans 14 départements. La moitié entier de la classe d'âge des 18 ans à laquelle s'adresse le dispositif pendant 24 mois est touché, avec un pic à 80% en Bretagne. Le Pass Culture qui cherche à se déconfiner, côté jeune, avec une nouvelle page d'accueil et un anti-algorithme pour sortir l'adolescent de sa zone de confort. Côté offreur, un accès simplifié pour les exploitants de cinéma, par exemple, réfractaires au départ, explique Damien Cuillère, le président de la société Pass Culture.
Jusqu'à présent, c'était pas très facile de se connecter au Pass Culture et de proposer leurs offres. On a lancé juste avant le confinement, donc on n'a pas vraiment eu l'occasion de l'expérimenter à grande échelle, mais des modalités techniques qui permettront aux exploitants d'importer très facilement toute leur programmation et d'automatiser les choses. Et donc d'avoir un catalogue de séances qui apparaît sur le pass de manière très facile.
Une politique culturelle qui part de la demande et qui continue de crisper certains, comme le député insoumis Michel Larive. Il demande de reverser le budget de près de 40 millions d'euros au plan d'urgence déjà annoncé par Franck Riester. Le ministre de la Culture s'accroche et il rédigerait même un décret pour élargir l'expérimentation.
Emmanuel Macron, la culture en ligne de fuite, c'est un article également signé Anne Fauquemberg que vous pouvez retrouver sur franceculture.fr. Si la situation sanitaire s'améliore en France, les professionnels de santé continuent à mettre la pression sur le gouvernement. À Paris, Marseille, Nice, Lille et Rennes, des manifestations sont prévues aujourd'hui dans les hôpitaux publics, des mardis de la colère organisés notamment par la CGT pour marteler que le Ségur de la santé, cette concertation qui s'est ouverte la semaine dernière, doit déboucher sur du concret, Tara Schlegel.
Premier syndicat dans les hôpitaux, la CGT affirme que le Ségur est mal parti. Son délégué, Christophe Prudhomme.
Il y a eu simplement le grand show de lundi dernier avec 300 participants. Le lendemain, deux réunions où aucune proposition concrète, chiffrée, n'a été faite et la prochaine réunion a lieu le 5.
Pour l'instant, aucune revendication portée par les collectifs et les syndicats n'a été entendue.
Sur les salaires, ils ne parlent que des infirmières, alors que l'hôpital, ce sont 140 métiers. Et en ce qui concerne les restructurations, les fermetures de lits, elles se poursuivent. Vous voyez, dans mon département, il y a un hôpital que le directeur général de l'assistance publique, Martin Hirsch, veut fermer. Eh bien, le déménagement d'un service va se faire dans les jours qui viennent.
Il s'agit de l'hôpital Jean Verdier, à Bondy. Un peu partout, donc, les mardis de la colère s'organisent avec leurs manifestations, pas toujours dans de bonnes conditions.
Vous savez ce que la direction de l'hôpital a fait dans mon hôpital ? Lors du dernier rassemblement, il a envoyé un huissier pour noter les noms des gens présents. Voilà les relations sociales que l'on a dans nos hôpitaux, sur ordre du gouvernement. Hein ? Faut pas nous dire qu'un directeur d'hôpital, c'est un fonctionnaire. Donc s'il prend ce type de mesure, c'est qu'il est couvert et qu'il a eu des consignes, il a eu des ordres.
La colère est donc encore très vive, assure l'urgentiste Christophe Prudhomme, alors que l'heure devrait être au dialogue social.
Les dernières manœuvres avant le bouclage. Les candidats au second tour des municipales du 28 juin prochain ont jusqu'à 18h ce soir pour déposer leur liste avant le lancement d'une campagne inédite à l'heure du coronavirus. Y aura-t-il un accord entre la maire socialiste sortante de Paris, Anne Hidalgo, et les écologistes emmenés par David Béliard? Oui, selon nos confrères de France Info. L'accord devrait prévoir de réserver un peu plus de 20 postes de conseillers de Paris aux écologistes et une éventuelle mairie d'arrondissement. Un accord qui offrirait un avantage décisif à Anne Hidalgo, Stéphane Robert.
L'ultime discussion se déroulait encore hier soir, mais le principe d'un accord semblait entériné entre Anne Hidalgo et David Béliard, tête de liste d'Europe Écologie Les Verts à Paris. Un accord qui devrait permettre à la maire sortante de décrocher entre 9 et 11 arrondissements sur 17 et obtenir une large majorité au Conseil de Paris. La force des écologistes est qu'ils sont faiseurs de rois dans plusieurs secteurs clés, dans les 4 arrondissements du centre, dans le 12e, dans le 14e, dans le 18e. Le 18e où, par exemple, sans accord, le candidat PS pèse, à l'issue du premier tour, un peu moins de 32%. Avec les écologistes, il grimpe à 49%, ça devient décisif. En face, aucun accord n'a été possible entre les principaux opposants, la droite républicaine et la République en marche, même localement, dans les 5e ou 9e arrondissements où les deux maires sortantes, qui portent les couleurs d'En Marche aujourd'hui, sont issues de la droite centriste. On n'est pas là pour sauver des sortants en perdition. Tranche sans concession les équipes de Rachida Dati. Rachida Dati qui ne semble plus avoir aujourd'hui pour objectif de gagner Paris, mais de sauver ce qui peut encore l'être, à savoir les 6 arrondissements de l'Ouest parisien. Et elle devrait y parvenir. Un accord est en passe d'aboutir, nous dit-on, entre les deux rivaux de la droite dans le 15e arrondissement. Par ailleurs, en étant la seule à s'être imposée dans son arrondissement, le 7e, dès le premier tour en mars dernier, Rachida Dati fait figure de chef incontesté de la droite parisienne. Pour En Marche, en revanche, Agnès Buzyn n'a plus grand-chose à espérer, d'autant qu'elle n'a pas su faire alliance avec le dissident de son propre camp, Cédric Villani, qui se présente tout seul dans le 14e arrondissement.
Une table ronde aujourd'hui entre le groupe Renault, les syndicats et les élus locaux à Bercy. Emmanuel Macron avait annoncé qu'il réunirait tous les acteurs du site de Maubeuge afin de s'assurer que l'avenir des salariés est garanti. Le site pourrait être mutualisé à l'avenir avec celui de Douai, a indiqué ce week-end le PDG Jean-Dominique Sénard, ce que refusent les salariés. Emmanuel Macron lui avait conditionné en partie le sort du site de Maubeuge auprès de 5 milliards d'euros que l'État doit octroyer à la marque aux losanges. Jean-Dominique Sénard, le PDG de Renault, refuse lui qu'on lui force la main et il prévient le gouvernement. Le constructeur n'est pas dans une situation aussi alarmante que veut bien le dire le gouvernement.
Tous les éléments s'agissant de cette facilité de crédit sont maintenant prêts. La signature est, de mon point de vue, qu'une question de temps. Renault fonctionne, Renault vit, et que cette facilité de crédit, aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, nous n'en avons pas besoin. De toute façon, si nous pouvons passer ce cap sans en avoir à l'utiliser dans son entièreté, eh bien, ça sera très bien. Il n'y a pas, j'allais dire, de précipitation à attendre, il n'y a pas le feu au lac, si je puis dire, comme disent les Suisses.
Urgence, en revanche, d'intégrer l'écologie aux priorités de la direction, estime Fabien Gache, délégué central CGT Renault.
Si une petite partie seulement de la population peut acquérir des véhicules électriques, on ne résoudra pas les problématiques d'émissions de CO2, puisque la grande majeure partie n'auront pas les moyens d'avoir de l'électrique. La deuxième chose, c'est que les véhicules, les gros véhicules sur l'usine de Douai, sont des gros véhicules donc très lourds, qui nécessitent des grosses batteries, donc des châssis renforcés avec un gros poids et une grosse consommation. Lorsqu'on fait le calcul de l'empreinte carbone, eh bien on se rend compte que en fait le bénéfice est quasiment nul quand on compare un véhicule de ce type-là avec un véhicule thermique. Donc je pense que c'est aussi ces questions-là qu'on veut mettre sur la table.
Fabien Gache, délégué central CGT Renault, dossier signé Hakim Kasmi.
8h12 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutuy. Il veut être le président de l'ordre et de la loi. Donald Trump en a même appelé à la Bible hier au 7e jour de manifestation après la mort de George Floyd.
Cet afro-américain de 46 ans tué la semaine dernière par un policier blanc, c'était à Minneapolis. Donald Trump a dit vouloir hier ramener de l'ordre dans le pays, quitte à déployer l'armée.
I am your president of law and order.
Je suis le président de la loi et de l'ordre et l'allié de tous ceux qui veulent manifester pacifiquement. Mais ces derniers jours, notre nation a été la proie d'anarchistes professionnels, de bandes violentes, de casseurs, de criminels, d'antifa et d'autres. C'est pourquoi je prends immédiatement ce décret présidentiel pour arrêter les violences et restaurer la sécurité en Amérique. Nous allons stopper les émeutes et les actions illégales en cours dans ce pays. On va les stopper maintenant. Aujourd'hui, j'ai fermement recommandé à chaque gouverneur de déployer les réservistes de la garde nationale en nombre important afin de dominer les rues. Si une ville ou un État refuse de prendre ces actions nécessaires, alors je déploierai l'armée des États-Unis et je résoudrai le problème pour eux rapidement.
Donald Trump, alors que les abords de la Maison-Blanche étaient saturés de gaz lacrymogène hier soir à Washington. Ce ton martial est le résultat de deux autopsies publiées hier, ne devrait faire que renforcer la détermination des manifestants à réclamer justice pour George Floyd. Le reportage à Minneapolis de Loïc Loury.
George Floyd est mort par homicide à cause de la pression exercée sur son cou par la police. Cette conclusion, c'est le médecin légiste officiel en charge de son autopsie qui la livrait hier. L'homme de 46 ans, dit-il, a fait un arrêt cardiaque et pulmonaire. Dans son rapport, il détaille toutefois d'autres paramètres importants, notamment une hypertension artérielle ou une intoxication au fentanyl, un puissant opiacé. Mais ses conclusions ne diffèrent pas de celles d'une autre autopsie mandatée par la famille, évoquée ici par l'avocat des Floyd, Antonio Romanucci. Cet homme a souffert de minute en minute alors qu'il était sur le sol à cause de la pression sur son cou, mais aussi parce qu'il était maintenu immobile par deux autres officiers. Il est mort dans la douleur et la brutalité. Ces policiers l'ont tué. Ils devraient tous être poursuivis pour meurtre. Dans un premier temps, des experts du comté avaient assuré qu'il n'y avait pas de preuves physiques soutenant un tel diagnostic, de quoi renforcer la colère des manifestants. La plupart réclament avant tout justice pour George Floyd, dont la mort filmée a choqué l'Amérique. Le policier qui a appuyé son genou sur sa nuque pendant près de 9 minutes n'a été inculpé que pour un homicide involontaire. Trois autres officiers présents lors de cette arrestation sont restés libres.
Loïc Laurie à Minneapolis pour France Culture. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis que l'on a manifesté hier pour dénoncer les violences policières sur fond de racisme. En Seine-Saint-Denis, à Bondy, un rassemblement était organisé après l'interpellation la semaine dernière de Gabriel, un jeune homme de 14 ans, surpris en pleine nuit en train de voler un scooter avec un complice. Les policiers l'ont arrêté, mais à l'issue de cette interpellation, l'adolescent s'est retrouvé à l'hôpital, le visage tuméfié. Il a perdu plusieurs dents et risque de perdre un œil. L'IGPN, la police des policiers, a été saisi. Le procès du scandale sanitaire du Mediator reprend ce matin à Paris après 2 mois et demi d'interruption en raison de la crise sanitaire et de la réduction drastique de l'activité des juridictions. On y revient dans le journal de 9h. Le temps de ce mardi de juin encore ensoleillé dans la moitié nord de l'Hexagone, plus nuageux voire pluvieux au sud. Au meilleur de la journée, il fera entre 24 et 29 degrés sur l'ensemble du territoire. Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutude.